tous et merci d'être présents ce soir. Vous le savez peut-être, pour cette année 2017-2018, le Dernier Bar a décidé de se lancer dans une programmation culturelle avec bon nombre d'événements, des tables rondes, des expositions, des animations. Et quoi de mieux que commencer cette programmation par un mois steampunk puisque notre thème est retour vers l'avenir. Bon, ça peut être très large. Aller du steam au post-apo en passant par le cyberpunk et beaucoup de thématiques. Et donc ce soir, j'ai avec moi trois personnes qui ont des points de vue différents en fait sur le steampunk. Et c'était moins différent, comme vous allez le voir tout à l'heure. Et le but c'était de les réunir pour qu'ils puissent discuter entre eux, mais aussi avec vous, parce que vous êtes libre de poser des questions, de rebondir et de débattre en fait avec nos vaillants intervenants. Je vais tout de suite passer la parole directement aux intéressés pour qu'ils se présentent un petit peu et puis on commencera directement la table ronde. Merci.
Bravo.
Midi commence.
Ah, j'ai gagné. On le fait dans l'ordre de l'intervention. Toc, ce sera très bien.
Super. Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Bertrand Campès. Si je suis ici, c'est parce que j'ai eu l'immense plaisir de coécrire un guide de l'Uchronie avec. Une co-auteure, Karen Goblet, guide qui est paru en fait aux éditions EQSF en 2015. Je travaille aussi, il y a un rapport avec ce soir. Je travaille également pour le magazine Animeland et je suis également critique pour le site ActuSF et en même temps membre du prix ActuSF de l'Uchronie.
Bravo!
Bonsoir, alors moi je m'appelle Feldric Riva et je suis auteur, donc j'ai appris un peu que j'avais écrit du steampunk.
Ça fait toujours cet effet là,
oui.
Ça fait toujours cet effet là.
Bon, je vais passer la parole au troisième larron.
Bon, on va faire avec ce sera bien. Bonsoir à tous, donc... Pour ceux qui ne me connaissent pas sous mon vrai nom, alors je m'appelle François Chatriot, voilà, c'est un plaisir que de faire votre connaissance. Et sinon pour ce soir, ayant revêtu l'uniforme mais spécialement pour l'occasion, je suis le lieutenant Cole Blacksmith, que d'aucuns qualifient de pilier du steampunk français, ça reste encore à prouver, voilà. Et disons que j'essaye de mon côté en fait de fédérer la plupart des gens qui s'intéressent en fait justement à ce mouvement subculturel visuel moderne. Et de ce point de vue-là, j'apporte mon aide et quelques connaissances que je peux avoir à tous les gens qui veulent s'y mettre, qui ont besoin d'inspiration, qui sont en quête de réponses et auxquelles je apporte généralement plus de questions qu'autre chose. Voilà.
Alors, pour commencer, est-ce que certains d'entre vous savent déjà ce que révèle le mot steampunk ? Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous avez déjà vu, lu, entendu des œuvres steampunk ? Oui, non ? Sautez sur place.
Oui.
Alors, le steampunk, comme toute bonne introduction, on va commencer en parlant de tout à fait autre chose, est issu d'un plus vaste courant qui dérive de l'ASF. À l'origine du steampunk, il y a l'Uchronie. Alors l'Uchronie, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot qui est dérivé en fait du grec, U pour le nom, et chronos pour le temps. C'est le non-temps. C'est donc un temps qui n'existe pas, ou plus précisément une histoire imaginaire. La première œuvre uchronique au monde est française, Cocorico, paru au milieu du 19e siècle et imagine en fait une histoire différente de Napoléon Bonaparte. Là, je suis en train de vous faire passer une des multiples en fait rééditions qui traite de cette possibilité uchronique. Donc cette œuvre met en place tout ce qui est devenu en fait l'Uchronie, avec tout un tas de petits, pour ainsi dire, schmilblick, de petits codes. À savoir, il y a l'explication du point de divergence, c'est-à-dire le moment où l'histoire change par rapport à la nôtre. En clair, au niveau du rail, ben, on quitte, pour ainsi dire, la ligne de chemin de fer principale et on prend un embranchement. Et il y a tout un tas de petits clins d'œil, justement, ben, le clin d'œil savoureux au lecteur, comme « Ah ben tiens, Waterloo devient finalement une victoire plutôt qu'une défaite », et ainsi de suite. À partir de là, vous avez tout un courant littéraire qui va se mettre à se développer, où on va justement mettre en place d'autres histoires, que ce soit à travers Napoléon, que ce soit à travers Jules César, et ainsi de suite. Le steampunk, lui, va reprendre en partie ce schéma-là, mais en s'affranchissant d'un des éléments essentiels à l'Uchronie, qui est le point de divergence. Le steampunk, à l'origine, bah, c'est une blague. C'est une blague, en fait, de trois auteurs californiens, K.W. Jeter, Tim Powers et James Blaylock, qui devaient travailler, en fait, pour une petite maison d'édition américaine, qui devait lancer toute une série de romans ayant pour caractéristique commune une réinterprétation du roi Arthur, qui sera incarné à différentes époques et dans différents lieux. Manque de bol, la maison coule. Nos auteurs se retrouvent avec des œuvres plus ou moins achevées, plus ou moins abouties, et ne savent pas du tout quoi en faire. Donc la blague commence finalement à être légèrement douteuse. Mais eux se disent, on a quand même un truc, on a bossé, pourquoi pas essayer de faire mousser le truc. On est à la fin des années, enfin, on est dans les années 80. Qu'est-ce qui marche à ce moment-là sur le marché de la SF? C'est le cyberpunk. Et là, sur le coup, ils vont dire, bah tiens, ils vont écrire une lettre en fait, à un magazine de SF très très connu, Locus, où ils vont déclarer, ah ben, nous on a une idée du futur truc à venir qui va marcher, ça s'appelle le steampunk. Donc à l'origine, c'est une blague. C'est trois types qui essayent de placer leur bouquin en disant, bah, notre truc, ça va être the next big thing qui va super bien marcher. Et à partir de là, on commence à avoir quelques romans qui, pour ainsi dire, s'installent, mais on n'a pas une définition précise. Ce n'est pas réellement, j'allais dire, vous n'avez pas tout qui est contextualisé comme dans l'Uchronie. Tim Powers, par exemple, son premier roman steampunk, Les Voies d'Anubis, c'est un type qui fait un voyage dans le temps dans l'Angleterre au milieu du 19e siècle et qui va tomber sur une Angleterre différente avec des clans de gitans, un peu de magie, des personnages très très bizarres et des gens qui essayent de ressusciter d'anciennes momies ramenées à Dodane du fin fond de l'Égypte. Donc quand on regarde ça, on se dit d'accord. K.W. Jeter avec Homunculus, lui, va plutôt mettre en scène vraiment une littérature type 19e, avec sa banfou, multiples péripéties, héroïne à sauver, héros assez naïfs, enfin une grande quête. Et tandis qu'à côté, le Blaylock, lui, va mettre en scène un roman qui n'a jamais été traduit chez nous, qui est une suite en fait directe à La Machine à voyager dans le temps. Et c'est à partir de ces trois éléments-là, en fait, qu'on va commencer à piocher, à mettre en scène tout un corpus d'œuvres. La littérature britannique, enfin plus spécifiquement anglo-saxonne, va s'amuser justement à commencer à codifier ce genre-là. Ça va se situer généralement dans l'Angleterre victorienne. On va reprendre des grands gimmicks, pour ainsi dire, de la littérature populaire. Vous pouvez avoir certaines légendes urbaines comme Jacques au grand talon, qui est une légende typiquement anglaise d'un personnage qui saute et qui s'en prenait à des jeunes femmes. Ça a été un fait divers terrifiant pour la population britannique au milieu du 19e siècle, ce qui est plus gros pour nous. Mais maintenant, j'allais dire, il continue de bondir d'œuvres littéraires en manga. Et à côté de ça, le courant va arriver en France. Le courant va arriver en France, mais va commencer à se développer différemment. Là où les anglo-saxons jouaient à fond sur l'époque victorienne et s'amusaient du coup à imaginer un futur qui était arrivé plus tôt, mais avec largement une thématique cyberpunk, un état limite qui contrôle tout, la mise en place justement des premiers grands moyens de surveillance, les ancêtres des ordinateurs, en reprenant la fameuse machine de Charles Babbage qui n'a jamais fonctionné, et tout un tas de thématiques.
Si. Oui, ils l'ont testé dernièrement et fonctionne, oui, mais à l'époque, il n'a jamais eu le temps de la finir.
On ne lui a pas donné le moyen de la finir.
Voilà.
Ça fait un peu l'électronique. D'ailleurs, dans mes souvenirs, je crois qu'elle apparaît dans une BD.
Mais donc, oui, en effet.
La thématique française, elle, va plutôt se développer de manière différente. On va plutôt s'installer au tout début du XXe siècle ou revisiter justement la Première Guerre mondiale, ce qui me permet de faire une magnifique transition avec justement un auteur français qui a écrit une œuvre à la fois une chronique et steampunk et qui va pouvoir nous parler un peu plus avant de lui de comment il a découvert à la fois le milieu et comment il a développé son œuvre.
Like.
Alors, moi effectivement, j'ai une approche assez intuitive de la question. Parce qu'en tant qu'écrivain, j'ai cherché d'abord à développer une idée, un univers, avant de m'apercevoir de ce que je faisais réellement. Moi, je suis archéologue de métier, en fait, à l'origine. Donc, je dirais que j'ai le réflexe assez facile d'aller chercher dans l'histoire, dans la réalité, les éléments qui vont me servir à construire mes univers et qui vont me permettre, je dirais, de mieux détourner la réalité pour servir mon scénario, servir mon histoire. Et donc, effectivement, je suis parti du principe que... C'est une remarque, qu'il y a beaucoup d'œuvres basées sur le victorien anglais, et finalement, assez peu de choses sur la fin 19e, début 20e français. Et quand on se penche un petit peu sur l'histoire réelle, on s'aperçoit que Paris a des choses intéressantes à offrir de ce côté-là. La science part dans tous les sens. On a parmi les meilleurs savants du monde. Il n'y a pas que la littérature et les arts, c'est dans tous les domaines. Et des grands noms qui ont apporté, je dirais, des pierres sur lesquelles on a construit tout le XXe siècle et sur lesquelles on vit encore aujourd'hui. Et donc moi, je suis parti sur ces grands noms et sur une problématique bien précise. La fin du XIXe, c'est également une période, je dirais, il y a un siècle de laïcité militante. La France, et Paris en particulier, c'est, je dirais, une mentalité très cartésienne, très réfléchie, très pondérée. Beaucoup plus que la mentalité anglaise qui va intégrer beaucoup plus de... Comment dire ça? On est plus dans l'érudition, mais dans le mythe, dans la légende, dans la magie, la sorcellerie est beaucoup plus présente. Le fantastique, tout simplement. Côté français, donc, je dirais que ça va se traduire d'une manière assez curieuse, c'est-à-dire que des très grands noms de la science vont commencer à chercher, à prouver certaines choses. Je pense en particulier à l'existence de la vie après la mort, de l'invisible, donner un nom à cette matière spectrale qui constitue les fantômes, trouver le siège de l'âme. Donc c'est assez étonnant de voir les noms qui sont associés à tout ça. Ce sont des noms qui figurent en bonne place dans les encyclopédies. Et ça a été tellement loin, ils n'ont pas abouti, qu'on a finalement complètement abandonné ce type de recherche par la suite. Il y a là, je dirais, fin 19e, début 20e, toute une mentalité occidentale. C'est vrai en Angleterre, c'est vrai en France. Une espèce de chant du cygne, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a un élan, la machine, la locomotive est lancée à pleine vapeur, pour ne pas parler de steampunk. Et on va se prendre de plein fouet la Première Guerre mondiale qui va mettre un coup d'arrêt à cette mentalité et on va voir migrer tous nos élans côté, au travers de l'Atlantique, quoi, côté américain. Et donc j'ai voulu retrouver à la fois le souffle presque épique de la science de l'époque et puis la folie des grandeurs qu'on avait à cette époque. C'est pas pour rien que la Tour Eiffel est née. Hein. La Tour Eiffel, il faut savoir quand même que c'est presque un siècle de bataille de qui construira le premier édifice de 300 mètres de haut. Quoi. Et donc c'est la France qui l'a eu, et presque sur un accident. C'est-à-dire que Eiffel n'était pas du tout partant pour ce genre de blague. Lui, il construisait des ponts, il construisait des choses sérieuses, une espèce d'antenne pylône de 300 mètres de haut, ça ne l'intéressait pas plus que ça. Il a vu le défi technique, il s'est lancé dans l'affaire, et on lui a tellement mis de bâtons dans les roues qu'il a fini par y investir ses propres deniers. C'est sur fonds propres qu'il a construit la tour Eiffel. C'est des tas d'histoires comme ça, le Paris de la fin du 19e. Et donc je me suis amusé tout simplement à me documenter extrêmement sur ces éléments, lire des biographies, lire une revue qui est simplement géniale, c'est La Nature. Alors, quand on lit La Nature, ben, on a l'impression de lire des brèves steampunk. C'est, en gros, c'était une revue de vulgarisation scientifique de l'époque. Et ben, voilà, on voit les premiers réfrigérateurs, on voit les premières turbines vapeur avec des échelles monstrueuses. Enfin, franchement, tous les décors steampunk qu'on peut voir, que ce soit au cinéma, que ce soit en bande dessinée, manga, jeux vidéo, ils ont tous été épuisés dans ce genre de documentation. Et que dire d'autre? Donc construire un univers steampunk, moi je ne savais pas ce que ça voulait dire. Enfin, je pense que comme tout le monde, j'avais vu en salon, vu dans la littérature, vu surtout au cinéma, en bande dessinée, manga, jeux vidéo, une esthétique. On voit tous l'esthétique un peu cuivrée, les rouages, les mécaniques, la vapeur. C'est un univers pour moi qui surtout a été pris en charge par les illustrateurs, par exemple. On est beaucoup dans le visuel plus que dans le concept, en fait, en définitive. Et concrètement, bah ouais, moi j'ai appris que je faisais partie de cet éventail du steampunk dans la branche la plus historique qu'elle peut comporter. C'est vraiment quelque chose de très réaliste, avec des éléments qui vont commencer à partir en quenouille et nous emmener, du coup, là pour le compte, dans une uchronie. Moi, le point de départ de l'uchronie, c'est la découverte de l'existence de la vie après la mort, avec des technologies qui vont être complètement dévoyées pour commencer à exploiter ces découvertes. Donc l'invention de la radio, du cinéma, même je réinterprète l'invention de la photographie, ce genre de choses. Et par la suite, avec le troisième opus qui peut se lire indépendamment, là on est complètement dans une uchronie. Et en termes de steampunk, ça correspondrait à quelque chose de baroque. Voilà, donc, tout n'a pas déjà été écrit, bien heureusement, mais il y a une telle foule de choses qui existent que c'est difficile aujourd'hui de vraiment apporter une nouvelle pierre à tout ça. Donc le baroque consiste tout simplement à se faire un artisan le plus précis possible et à faire une espèce de synthèse de ce qui existe déjà pour proposer quelque chose d'une forme pure, quoi. Donc voilà un petit peu.
Pure ou épurée ?
Les deux vont bien ensemble.
Oui, hein.
Oui. Ah. Après, c'est vrai que mon intervention est un peu sur la construction d'un univers steampunk. Donc je dirais que j'y ai en partie répondu. Après, dans la démarche, une fois qu'on a passé la phase documentaire encyclopédique de la chose, l'idée, c'est pas de refourguer une nouvelle encyclopédie. Il y a une phase de digestion, d'affinage, et là, l'épuration. L'épuration.
Voilà.
On est dans un phénomène, effectivement, où il faut supprimer toutes les scories. Voilà, donc il ne faut pas trop le faire et y revenir encore, jusqu'à obtenir quelque chose qui se détache complètement de la documentation originale pour obtenir quelque chose qui vous est propre. Quoi. Donc ça va être vrai dans le jeu de rôle, ça va être vrai pour l'écriture d'une nouvelle, pour l'écriture d'un roman, pour l'écriture d'un scénario. Vraiment partir de ce qui existe déjà, pas forcément en termes de littérature ou de référence cinématographique ou autre. Faites-vous votre propre image de l'univers que vous voulez créer. Et vraiment aller chercher dans la réalité dépasse toute imagination, c'est assez impressionnant. Exemple bête, la tour Eiffel. Faut savoir qu'exactement à la même période, un autre bonhomme construisait une tour métallique, c'est Tesla. Cette tour était censée être un prototype d'une espèce d'antenne censée récupérer une énergie illimitée entre l'atmosphère qui faisait une espèce de rotor et la Terre qui faisait un stator. Voilà, donc le principe de la dynamo. Et ils pensaient qu'en plantant une antenne suffisamment haute, il y aurait moyen de récupérer une énergie illimitée qui a été appelée le vril. Donc je détourne cette idée-là pour dire que Eiffel s'en est servi pour sa tour Eiffel. Je pars de la réalité, j'ai pas été beaucoup plus loin, quoi. Donc ce sont ce genre d'exemples en fait qui sont allés, enfin faut aller les chercher dans la documentation existante. Et franchement, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de creuser très loin avec Internet. Vous avez accès à une base de données numérisée, surtout sur la fin du 19e. C'est tombé dans le domaine public. Vous avez le parfait manuel du petit matelot sur les tout premiers bateaux à vapeur. Ils vous décrivent par le menu jusqu'à la tenue, le nombre de paires de chaussettes. Donc voilà, c'est assez simple en
attendant.
Mais c'est important.
Très important.
Pour rafler l'armée, oui.
Pour quasiment.
Voilà, ah, merci beaucoup. Et si vous avez des questions.
Donc s'il y a des gens qui veulent déjà commencer à poser des questions, allez-y. C'est pas si, non.
Il y aura un temps de questions à la fin, mais voilà. Voilà.
S'il y a des spontanés là qui doivent venir, oui. Non.
Pour revenir à l'inspecteur Lacassagne, il est pas steampunk, il est juste le vecteur, parce qu'il est tout à l'envers du jeu.
Ouais.
C'est justement le but du jeu, qu'il soit si...
Tout à fait, en fait, le personnage dans le premier diptyque...
C'est exactement ça, le personnage de l'inspecteur Lacassagne dans le premier diptyque.
Il est quand même...
il est particulièrement réaliste.
Il est particulièrement chargé.
Oui, aussi. Oui, il a 2-3 soucis.
Oui.
Ce qui vont faire sa force, d'ailleurs, par la suite. Et effectivement, c'est là où on a affaire à un inspecteur de la sûreté, au tout début de la police moderne, police scientifique, qui représente vraiment le symbole du parisien cartésien, qui s'appuie sur des faits tangibles, et qui va dévisser forcément devant cette réalité qui va lui être proposée, et qui va l'amener ailleurs. Mais on va le découvrir effectivement sous un tout autre aspect dans Paris Capital, donc l'opus, une sorte de spin-off 20 ans après, où là, pour le compte, il y a des technologies utilisées qui vont lui donner des particularités un peu ouais, je vais dire particulières, c'est bien pour un écrivain.
Pas d'autres questions ? Bon. Bah écoutez, après tout ça, moi, je ne sais pas trop quoi rajouter. Je vous l'avoue, je pense pas que tout ait été dit non plus, parce que, comme on l'a déjà évoqué, le steampunk... Déjà, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner, le steampunk est mort. Voilà, ça sera fait. Attention, mon Dieu. Alors, je vois tout le monde qui me regarde. Oh, qu'est-ce qu'il a dit ? Vive le steampunk, en fait. Il n'y a pas de définition à proprement parler du steampunk. Le steampunk, chaque personne, chaque vaporiste, terme qui existe à l'heure actuelle pour définir les praticiens du steampunk français, le steampunk a autant de définitions qu'il a de praticiens, en fait, tout simplement. De ce point de vue-là, comme on le disait justement aussi tout à l'heure, il va appartenir à tout un chacun, en fait, de se constituer soi-même, soi-même, en fait, justement, son propre univers, celui dans lequel il va souhaiter évoluer au final, celui dans lequel il va définir en fait son héros s'il écrit un roman, son univers justement pour broder autour, ou peut-être les influences musicales, je pense notamment à The Cookies Dead qui a vraiment une influence très très country, je pense à Abney Park qui, bien que ce soit un groupe justement américain qui a quand même vraiment selon moi une consonance en fait au démarrage qui est plutôt britannique, je dirais. Évidemment, ça fait rire les gens. On peut vraiment passer aussi à du grandiose et à du très baroque comme Spikey de Carnival. Enfin, Spikey qui a fait Carnival Symposium, qui reste une ode justement en matière musicale au steampunk, qui est incroyable. Je vous invite vraiment à l'écouter si vous n'avez pas déjà entendu parler en fait de cet auteur-compositeur. Et après, on finit justement par franchir le pas, par commencer justement à bricoler soi-même certaines choses, à se faire plaisir, à réfléchir justement sur la façon dont on va se constituer quelque part en fait son propre persona, et pour arriver vraiment à quelque chose de complètement original et qui va en fait être notre petit point d'ancrage dans cet immense maelstrom culturel et imaginaire qu'est le steampunk. Comme on le définit à l'heure actuelle. Disons que j'ai une définition peut-être simpliste que je peux apporter en fait, que j'ai apporté à tous ceux qui m'ont posé la question au final quand j'avais plaisir en fait justement de présenter ce qu'était le steampunk lors des premiers stands qu'on avait notamment en fait sur la Japan Expo, sur Geekopolis en fait et toutes les autres grandes conventions geek en fait à l'époque. Le steampunk pour moi c'est qu'est-ce qui se serait passé si Jules Verne au lieu d'avoir écrit 20 milieux sous les mers avait tout simplement conçu réellement le Nautilus. On parle quand même d'un engin propulsé par l'énergie de la matière. Je ne sais trop combien d'années avant la première mention du nucléaire. Je trouve que ça laisse quand même à réfléchir. Pareil, on parlait tout à l'heure en fait des plans de Charles Babbage et d'Ada Lovelace concernant leur premier calculateur différentiel.
il y a des étudiants londoniens ou cambridgiens, je crois, je ne sais plus quel membre, cambridgiens, oui, qui ont eu les plans, en fait, justement, de la machine à différence, et qui ont passé, je crois, une quinzaine d'années à tenter de la réaliser. Et quand ils ont fini sur les plans, ils ont fait, bon, bah, on va la mettre en marche et on va voir si ça marchait. Et ça a fonctionné. Qu'est-ce qui se serait passé, justement, si, à l'époque, on avait donné les moyens à M. Babbage de réaliser cette machine? Tout simplement, l'informatique moderne aurait eu 150 ans d'avance.
Non, je pense pas. Non, en fait...
Ça, c'est une interprétation. Hein.
Oui, t'es très optimiste.
Vous avez raison, par contre, monsieur, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il n'y a pas de définition claire au steampunk. Par exemple, Bertrand l'a rappelé, c'est un canular au départ. Donc, ce n'est pas parti de la fin, c'est un truc qui est parti en voyage. Néanmoins, derrière le canular, dans le steampunk, à mes yeux, il n'y a peut-être pas de définition, mais il y a deux piliers. Même si depuis une dizaine d'années, il n'y en a plus qu'un qui est travaillé, et c'est pour ça que je pense qu'il est mort, et je suis assez d'accord aussi avec cette provocation. Il y a un pilier esthétique indubitable, vous en êtes la démonstration vivante, et il y a un pilier que Frédéric a souligné sans prononcer le mot, je le rabatte, mais tu vas rebondir forcément, c'est que ça part d'un canular au départ lié au cyberpunk. Et quand on connaît, moi je connais très bien Deep Powers, et même aussi Bleok, quand on discute avec eux, ces gens, ce qu'ils aimaient dans le cyberpunk, c'était le cyberpunk avait entrevu une révolution informatique ou de réseau, c'est pas ça qui était intéressant, c'est qu'ils décrivaient un monde avec des changements sociaux majeurs. Souvent, les multinationales, les points sur les États, etc. Donc globalement, ils étaient dans un changement sociétal. Or, ce qui est intéressant, vous avez souligné le 19e siècle, c'est la révolution industrielle, non pas en tant que révolution mécanistique, mais en tant que changement sociétal. Avec une simple constatation, hein, en tant que pour l'esprit historien, c'est que c'est la première fois avec l'invention de l'électricité où on peut travailler 24 heures sur 24. Avant la révolution industrielle, les historiens ne contrediront pas, les gens n'étaient pas à la semaine des 35 heures, ils étaient bien moins, car ils travaillaient avec le soleil. Donc l'hiver, ils travaillaient très peu. Autrement dit, quand on parle de stress et autres, ça apparaît avec l'électricité. Et ce n'est que maintenant qu'on redécouvre, entre guillemets, le temps libre. Le temps libre existait avant. Donc c'est des changements profonds. Et moi, ce que je trouve intéressant dans le steampunk au départ, même si c'est un canular, et on le voit bien dans le roman de Powers, on le voit bien dans le roman de Belloc, où on s'intéresse à des petites gens qui en chient dans cette révolution et dans le changement, c'est que c'est à la fois un univers esthétique, mais c'est à la fois une réflexion sur les changements sociétaux, la notion de classe, de lutte des classes indifféremment, et projeté en arrière, pourquoi pas avec l'ordinateur à vapeur. Alors l'ordinateur à vapeur, c'est pour ça que je disais non. Quand on commence à prendre cette dimension-là historique, non, si la machine de Babbage avait marché, elle n'aurait pas été intéressante, parce que la machine de Babbage est intéressante pour la cryptographie. C'est-à-dire que, d'un point de vue purement de l'histoire des techniques, il y a des découvertes qui peuvent arriver trop tôt. Oui. Voilà. Elles auraient pu marcher, mais elles n'auraient pas été exploitées parce qu'elles ne correspondent pas à un besoin.
Un besoin, justement, de l'époque.
Il faut qu'un marché rencontre un produit pour qu'il y ait quelque chose. À l'époque, ce qui est intéressant, c'est la mécanique. C'est de faire plus et plus vite. C'est pas de cryptographier, c'est pas de faire du calcul intensif.
C'est vrai qu'il n'y avait pas de regret, ça
c'est une mauvaise chronique que d'imaginer que...
Alors, il y en a qui l'ont fait.
Moi, je vais vous poser quand même une question parce que je ne voulais pas paraphraser. Les Français se sont emparés, vous le disiez à juste titre, du steampunk, et l'ont un peu mis à leur sauce, avec Napoléon III, donc ils n'ont pas perdu cette dimension laïcité, lutte, etc. Est-ce que vous pensez, vous qui connaissez bien ces milieux associatifs et autres français, que la plupart des jeunes qui nous entourent d'ailleurs aussi sont conscients de cet aspect steampunk que j'ai souligné? Parce que moi qui collectionne le steampunk depuis toujours, et depuis même l'origine, et même avant, je constate quand même personnellement que depuis 10 ans, on ne parle que d'esthétique steampunk, qui est très indubitable. Et je ne vise personne ici, mais on a complètement laissé sous silence cet aspect que les écrivains exploitent, Joan Elliott, vous-même, de ce concept de classe. Voilà.
Si, en fait, il fonctionne. C'est cool. Excuse-moi, je fais un petit peu là.
Debout.
Alors, en fait, justement, c'est vraiment très intéressant, justement, comme rebondissement. Il est vrai que, je dirais, ce pilier qui, au final, disparaît petit à petit, qui se fait engouffrer, en fait, vraiment dans le maelstrom de...
artistico-culturel représentatif, pour moi, permet en fait justement de... Je dirais pas de faire le tri, parce que ce serait... L'idée de séparer le bon grain et l'ivraie ne me plaît pas dans le milieu culturel, parce que honnêtement, des fois, on tire bien plus de choses de l'ivraie que du bon grain, on va dire ça comme ça. Mais ça permet de voir aussi ceux qui vont véritablement approcher, ceux qui vont réfléchir en fait justement là-dessus, et ceux qui vont devenir, à mon sens, je pense peut-être, les fondateurs d'une nouvelle esthétique, d'un nouveau genre, d'une nouvelle réflexion. L'expo de Nicolas Meunier, justement, met en place justement certaines grandes représentations de changements sociétaux, quoi. Juste, je pense d'ailleurs qu'il est illustré dans la cage d'escalier. Je crois qu'il y en a un justement qui est absolument magnifique. J'invite tout le monde à aller jeter un petit coup d'œil justement sur les représentations présentes. Et je pense sincèrement que c'est limite quelque chose. Le premier pilier va être en fait le point d'ancrage. Et une fois que les gens sont bien ancrés et qu'ils ont envie d'y rester, mais qu'ils se disent « Oui, ben on va peut-être pas rester sur notre pilier, là, qu'est-ce qu'il y a dans cette grande mer qui nous entoure ?» vont finir peut-être par se tourner vers les grands anciens qui sont dans ce pilier-là depuis un bon bout de temps et qui naviguent de temps à autre, qui au final vont leur dire « Viens, écoute, je t'emmène ailleurs et on va voir si tu t'y plais. » Et de ce point de vue-là, ça permet... j'en ai pas beaucoup besoin. De ce point de vue-là, en fait, je pense que ça permet véritablement de développer, de renouveler constamment en fait cette bête mutante, littéralement, qu'est le steampunk et qui, à mon sens, le demeurera toujours. Le steampunk n'a pas de frontières définies. Ça reste une masse, véritablement un océan en fait, dans lequel on va plonger à diverses profondeurs pour aller chercher au final ce qui nous y plaît. Il y a beaucoup de gens qui vont rester vraiment à patauger en fait en eau peu profonde, et il va y avoir des fous furieux qui vont carrément aller sortir des trésors qui vont même peut-être créer eux-mêmes en fait dans les courants de ce mouvement, et qui vont dire voilà, ça j'ai trouvé ça, qu'est-ce que vous en dites? Et après il y en a qui vont faire ah ça c'est bien, c'est intéressant, et d'autres qui vont dire c'est pas steampunk et tout machin. Alors, ok d'accord, c'est pas steampunk, en même temps il n'y a pas de définition du steampunk, mais c'est ce qui nous permet au final de réfléchir justement tous ensemble et de continuer à faire en sorte que ce mouvement existe. Voilà. Certes, c'est pas, je dirais, à la portée de tout le monde de considérer en fait justement ces changements historico-sociétaires. S'il y a un petit côté très, très Asimov dans l'idée, justement, très psychohistorique, et qui peut-être pourrait commencer à intéresser certaines personnes.
On est plus proche de Wells que de
Verne. Oui, monsieur, là-bas, derrière, que je connais.
Quelqu'un qui ne connaît pas, en fait.
Oh, il y a beaucoup de gens que je ne connais pas ici, ça fait plaisir.
Bonjour, donc je suis Nicolas Meunier, celui qui a fait les...
Bravo.
J'avoue, c'est plutôt que j'ai eu la chance de faire ces photos-là. Donc c'était aussi pour répondre sur la dualité du steampunk entre l'esthétique et le fond. Donc j'ai eu la chance d'illustrer un livre mais qui a été fait par deux auteurs, Étienne Barrier et Arthur Morgan, où justement il y a ce fond sociétal, puisque la situation, c'est une uchronie sur la commune, d'où l'intérêt, c'est que c'était une période pas forcément bien connue du grand public. Et par contre, ce qui est très très intéressant, c'est comment les gens se sont appropriés les choses, puisque d'un côté, il y avait une trame qui avait été décidée, mais ensuite, j'ai fait toutes les images dans toutes les régions de France, on a laissé pas mal de liberté à chaque groupe de chaque région de s'exprimer, et chacun a pu montrer ce que lui pensait être de steampunk. Et on a des choses, certes, très graphiques, on a eu même de l'inspiration Star Wars, mais on a eu aussi des choses dans le musée de la médecine à Lyon, par exemple, et des choses très très intéressantes. À Paris, ça c'est devenu quelque chose de très très historique. Grâce à elle. Où justement, on a mis en valeur des personnages historiques réels, mais qu'on a un peu réinventés. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est que la centaine de modèles qui ont servi pour le livre, forcément, ont eu à interagir les uns avec les autres, se poser des questions, leur donner un thème assez vague, mais quand même, on leur donnait un thème, et donc ils ont beaucoup se posé des questions là-dessus.
Ça a dû être chaud.
Donc, il a fallu des fois un peu recadrer, gérer des choses.
Toujours.
Mais il y a eu des choses très, très intéressantes, des gens qui venaient du théâtre, des gens qui venaient de l'historique, des gens qui venaient de la performance. Enfin, il y a eu vraiment des choses très, très, très différentes. Et le steampunk a été un lien et ça les a fait beaucoup réfléchir sur ce que c'était. Et moi, personnellement, même si je fais beaucoup des images grâce à la rencontre avec beaucoup d'auteurs, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Bien avant de faire des images, je suis un geek et j'adore la science-fiction. Et... Alors moi, j'ai une définition du steampunk très courte, mais qu'à chaque fois, je me prends des baffes en disant, mais pour... Enfin, pour moi, c'est une uchronie victorienne, alors plus par rapport à l'époque. Et pour moi, les deux premiers auteurs, dans mon sens, même s'ils n'avaient pas qu'ils faisaient du steampunk, c'est justement Jules Verne et H.G. Wells. Et d'où, à chaque fois, je vais à Disneyland, je passe mon temps dans le Nautilus. D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller à Tokyo DisneySea.
Oui, c'est le plus beau du monde. Vous avez l'île mystérieuse et le Nautilus qui rentre et qui sort. J'ai vu ça, je t'ai
fait. Il y a des perforatrices dans le volcan à vapeur. Disons qu'on est vraiment des petits joueurs. Enfin voilà. Mais donc tout ça pour dire, certes, l'aspect esthétique est devenu un peu trop important, surtout pour une
tu
chose.
Tu pouvais dire le cosplayer.
Non, mais en fait, ce qui a vraiment changé, c'est qu'il y a 10 ans, si on voulait avoir une tenue steampunk, il fallait faire partie de forums pour discuter entre nous, pour apprendre à la faire et partager. Et donc, forcément, en partageant, expliquer au fait d'où ça vient. Maintenant, on peut acheter dans un magasin quelque chose de ce fait, et donc, il n'y a pas la réflexion. Mais voilà, mais tous les mouvements ont un peu eu ce problème-là, donc c'est pas...
Faut bien commencer quelque part, moi c'est ce que j'ai tendance à définir justement par les gothiques marrons, on va dire ça comme ça. Alors, pour le coup c'est pas français, c'est américain, c'est quoi le steampunk? C'est des goths qui ont découvert la couleur marron. J'irais, il faut bien en fait un marchepied. Bien marche bien, faut bien commencer quelque part, et il y a des gens qui vont être timides, qui vont pas forcément en fait avoir les moyens justement de se réaliser une propre tenue, qui vont commencer à faire ça. S'ils sont contents, bon bah tant mieux pour eux, j'ai envie de dire, ils sont contents, c'est l'essentiel. S'il y a des gens qui veulent définir, enfin qui veulent véritablement s'approprier la chose, qui veulent aller plus loin, ils vont servir ça comme base et ils vont passer très vite à autre chose, ils vont customiser en fait ce premier costume, la première histoire de leur première persona, ils vont passer à autre chose, ils vont en faire d'autres, ils vont mélanger, et à nouveau en fait ils vont constituer en fait cette petite marque culturelle qui leur est propre et qui vont déverser à nouveau dans cet océan-là. On parlait justement d'océan, on parlait d'association aussi tout à l'heure, il y a plein de petits îlots que beaucoup d'entre vous connaissent ici, donc on parlait justement du milieu lyonnais tout à l'heure, donc je pense à la Clivra. Sur le milieu parisien, vous aviez, plus sur l'ensemble du territoire, fut une époque, donc la Steam Rocket, vous avez Event Division, vous avez la Société des Libellules, vous avez steampunk.fr, vous avez French Steampunk, ça en fait déjà beaucoup, c'est pas mal. Vous avez la BSPS en Bretagne, nos amis bretons, si vous nous entendez, on vous aime, vous me manquez terriblement. On a Rêve Temporel, nos amis toulousains, qui sont plus vraiment partis, eux, sur une société de spectacle, et je leur souhaite tout le succès qu'ils méritent, parce qu'ils sont fantastiques. Nos amis belges aussi, de la TOSVABE, la très officieuse société vaporiste belge, qui sont absolument fantastiques, qui sont à fond de gras d'ailleurs dans pas longtemps. S'il y a des gens parmi vous qui ont la chance d'y aller, je vous conseille d'aller leur faire un coucou et un gros bisou, parce qu'ils sont adorables et ils vont vous en mettre plein les yeux, ça vaut vraiment le coup, voilà. Et c'est en fait vraiment à partir de ces petits îlots qu'on peut aussi commencer à trianguler une route, une sorte de chemin initiatique qui nous permet en fait justement de remplir le sac à dos, on va dire ça comme ça, tout simplement. Voilà, voilà.
Pour rebondir sur la question sociétale, c'est assez... C'est assez étonnant en convention justement de voir à quel point le steampunk illustre cette question sociétale. C'est-à-dire qu'on va avoir des cosplayers avec 5000, 6000 euros de vêtements cousus, pas par leurs mains, par des couturiers plutôt talentueux, dans l'esthétique justement victorienne, avec les petits rouages en or, etc. Et on va voir à l'opposé, l'ado qui a fait le tour
beau,
du fond de garage et qui a voilà, lustrer son truc en crachant dessus. Et pour moi, ça représente assez bien, justement, effectivement, le fait que c'est un mouvement que chacun peut se, enfin, s'emparer.
Et, par tous les moyens possibles.
Et avec tous les moyens possibles.
Merci. J'ai une remarque pour vous faire réagir. Je disais, j'ai une remarque pour vous faire réagir. Ouais. Bertrand a souligné tout à l'heure qu'il y avait peu d'uchronie en France sur le 19e siècle jusqu'à l'arrivée du streamback moderne. Il y a une raison, en fait, c'est que, par exemple, et c'est l'actualité avec Donald Trump et compagnie, la guerre de sécession, qui est à peu près à la même période. La première uchronie sur la guerre de sécession date de 1899. Donc les Américains la font très tôt. Parce que chez les Américains, le conflit reste permanent, c'est-à-dire que la ségrégation va rester. On est sudiste, on est nordiste, et on voit encore aujourd'hui, on va démonter ou déboulonner les statuts. C'est-à-dire que le monde anglo-saxon, il y a un conflit qui existe toujours, hors guerre ou par guerre. Dans le monde français, il faut une concorde. Après la commune ou avant la commune, il faut une concorde. Ce sera pareil avec la guerre d'Algérie, c'est pareil avec l'épuration en 1945, c'est-à-dire au nom de la reconstruction nationale, on met sous le tapis les trucs et on n'en parle plus. C'est pareil en 1989, quand j'ai voulu faire le premier recueil d'uchronie sur la Révolution française, on m'a expliqué, monsieur, c'est encore un peu trop sensible pour les Vendéens et autres. On est en 1989, on n'en fera pas. Bon, donc,
c'est tellement français.
Donc ce qui est intéressant, c'est que le steampunk arrive en France dans les années 2000, où, enfin, j'exagère, il y a toujours des précurseurs, mais je parle bien, voilà, on en parle, on commence à en parler sérieusement, Xavier Mauvaisjean en fait un petit peu sur la commune, etc. Il arrive avec, après l'esthétique, parce que l'esthétique est neutre. Et ce que tu fais avec une remarque est intéressante, c'est-à-dire qu'elle est capable de foutre un type qui gagne 10 000 euros par mois avec un type qui gagne rien, sans se rendre compte qu'en fait le steampunk est hautement pétatoire politiquement en France, si on parlait vraiment de steampunk. Monsieur ne le fera pas, parce que comme il nous a expliqué dans son introduction, son objectif est de fédérer toute la fédération, donc surtout vous n'avez pas de clivant. Mais moi je peux me permettre de vous emmerder en vous disant le steampunk normalement ne devrait pas réunir les gens mais les opposer. Car il réveille des vieilles blessures françaises, si on fait du steampunk à la française, qui sont toujours sous le tapis. Et on voit d'ailleurs aux États-Unis qu'elles ne sont même pas réglées quand on regarde ce qui se passe en ce moment. Voilà. Donc comment vous réagissez là-dessus? Parce que vous, forcément, en tant qu'écrivain, vous êtes intéressé à ça. Je sais que Bertrand Kempes a réfléchi beaucoup aussi à pourquoi certaines périodes sont utilisées de l'histoire ou pas. Qu'est-ce que ça vous inspire, ma provocation du moment-là?
Alors moi, sur le plan historique, je peux vous dire que j'aurais pas aimé vivre au 19e, fin 19e. Période magnifique pour ceux qui avaient vraiment les moyens. C'est-à-dire 5% de la population parisienne. Voilà, qui avait les moyens d'avoir les domestiques, les belles tenues, les beaux restaurants. Quand on voit les menus, ça fait envie. Mais les autres n'avaient que les yeux pour regarder, quoi. Donc effectivement, la fin 19e française est peu... C'est une période qu'on ne voit pas au collège, qu'on ne voit pas au lycée. On bricole juste en survol, on préfère parler de Vercingétorix. C'est très intéressant. La société française est effectivement née à la fin, de, à la fin du 19e. Et dans la violence, dans le sang. Quand on commence à se pencher sur l'histoire de cette fin du 19e, on se dit, purée, oui, les bonnes idées qu'ils avaient pu avoir à l'époque, la limpidité de la pensée des hommes politiques de l'époque, qui étaient issus de toutes les classes, c'est juste, en fait, c'est glaçant, pour le dire autrement. C'est-à-dire que tous les conflits qu'on peut voir à l'heure actuelle, y compris jusqu'aux, voilà, les choses comme les attentats qu'on a eu récemment. Moi, j'étais en pleine documentation avec les premiers attentats là-bas. On a eu ça en France aussi. C'est quand on voit l'argumentaire des anarchistes de l'époque. Il y a juste à changer quelques chiffres et on est en 2016-2017.
C'est exactement ça.
Ce sont les mêmes frustrations des classes qui n'ont pas ce qu'il faut pour être heureux, qui n'ont pas les moyens de profiter du monde dans lequel ils vivent. Et à l'époque, on n'avait pas accès à grand-chose.
Voilà. Je me permets pas. Je me permets de rebondir en fait sur quelque chose qui est très vrai. Au final, on a défini qu'on mettait ça sous le tapis et qu'on jetait un voile pudique là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'une culture qui oublie son histoire a tendance à reproduire les mêmes erreurs. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, je ne sais plus qui c'est. Je remercie cette grande personne. Et ça peut aider justement, quand on s'intéresse à une période justement aussi trouble que la guerre de sécession, parce que quand même, bon, enfin, ça a été quelque chose d'assez monstrueux en fait comme conflit. Enfin, il suffit de citer les noms de certaines batailles, il suffit aussi de citer les avancées technologiques de cette période. Enfin, il faut savoir que la France a quand même envoyé, je crois, une bonne partie de ses premiers prototypes d'armes et de machines de guerre là-bas pour voir si ça allait marcher.
Genre, c'est la guerre d'Espagne, c'est qu'avant on teste les armes.
Ouais, voilà, c'est ça. Allez, on va voir si ça marche. Si ça marche, tant mieux, on continue. Si ça marche pas, tant pis, au moins ça leur a pété à la gueule, pas à la nôtre. Mais voilà, il est bon justement, en fait, je dirais, d'inciter les gens, en fait, à aller se cultiver. Simplement parce que la culture, c'est important. Ça reste encore très important de nos jours. Et à réaliser peut-être toute la grandeur, mais aussi toute l'horreur, en fait, de ce que pouvaient être ces périodes-là. Et au final, se dire, comme Frédéric l'a si bien souligné, que, ben, au final, cette période n'est pas si différente de celle qu'on vit à l'heure actuelle. L'histoire est un éternel recommencement. Et que, bon, bah, faudrait peut-être commencer à sortir un peu de ce cycle-là, commencer à apprendre de nos erreurs et à se dire, bon, bah, voilà, là, ça, c'est quand même la deuxième, troisième fois, enfin, je suis gentil, que ça foire, on va peut-être essayer de passer à autre chose. Bon, ça, après, c'est sûr que tout le monde se dit, après coup, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, à cette échelle-là? Bah, je sais pas, il y a des gens qui écrivent des livres, par exemple, que des gens lisent. Et ils en parlent avec d'autres gens qui finissent par lire ces livres, qui se disent « Ah, ben, ça me donne une idée, moi je vais commencer à écrire des choses aussi. » Et puis c'est comme ça que ben, certains mouvements prennent forme. Voilà. Après, libre à tout un chacun de se faire sa propre idée là-dessus, de s'investir comme il le sent, et peut-être ben, au final de commencer une petite révolution à sa propre échelle. De toute manière, une étincelle, ça fait toujours du bien. Et de ce point de vue-là, genre, je rebondis sur une de mes œuvres préférées, qui a Girl Genius de Finica Jaffoglio. Les étincelles, en fait, c'est la dénomination en fait, des savants fous. Une frange en fait, de la population dans cet univers de gaslight fantasy. Attention, ce n'est pas du steampunk. Attention. On s'en est, mais bon. Voilà. C'est une infime frange de la population, mais c'est celle qui fait bouger le monde. Et ces Sparks, en fait, sont des gens comme vous et moi, jusqu'à ce qu'ils rentrent, en fait, dans le domaine de la folie et où ils vont se mettre, en fait, à concevoir tout et n'importe quoi qui vont leur passer par la tête avec tous les matériaux qui vont leur tomber sur la main et vont faire, voilà, ça c'est fait, je sais pas à quoi ça va servir, mais ça va servir à quelque chose. C'est du genre le lance spaghetti infernal, enfin voilà, c'est là, genre, oui, d'accord, c'est très intéressant. Au final, c'est une arme de destruction massive, mais qui va s'avérer être plus un moyen de subvenir en fait à des famines dans certaines régions profondes de l'Italie. Ça, je crois que c'est dans le volume 8 ou 10 du... Voilà, sur la fin, hein. C'est à mourir de rire, mais ça donne bien une idée en fait de jusqu'où ça peut partir. Et si ça peut faire rire, tant mieux. Si ça peut faire réfléchir aussi, ben, c'est pas plus mal.
Comme le steampunk est subversif.
Pardon ?
Comme le steampunk est subversif.
Bah, s'il n'y a pas punk pour rien dedans. Voilà, voilà. Sinon, alors j'aimerais citer quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je pense que vous le reconnaîtrez.
Excuse-moi, je te prends le temps de parole.
C'est au final le steampunk, qu'est-ce que c'est? Je pense que personne n'en sait grand-chose ici. Bah, figurez-vous que moi non plus. Et je pense que j'en ai rien à faire. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Mais aujourd'hui, on est rassemblés, là, tous ensemble, pour parler de cette chose bah, qui nous intéresse tous. Ce sont ces différences, en fait, ces questionnements, ces débats, en fait, cette évolution sans cesse de ce gros maelstrom qu'est le steampunk, qui vont nous permettre, en fait, justement, d'aller tous ensemble vers la même direction. Enfin, plus ou moins. Au final, le steampunk, c'est notre union. Le steampunk, c'est notre grandeur. Merci, monsieur Alexandre Astier. T'en prie.
Alors, merci. Ouais. Alors, pour faire simple par rapport à tout ce que j'ai entendu sur le steampunk, est-il une esthétique, le steampunk est-il subversif, etc., etc., qu'est-ce qu'une définition du steampunk? Alors, je suis d'accord. Le steampunk, théoriquement, ça n'a pas de définition. Il y en aura autant qu'il y a de personnes, non seulement dans cette salle, mais surtout au niveau du bar. Le steampunk n'a pas vocation à avoir, de toute façon, de définition. Tout à l'heure, tu as eu une jolie image en parlant d'océan, de petites îles, de connexions, et ainsi de suite. Le steampunk, en tant que tel, c'est même pas un genre, tout comme l'Uchronie n'est pas un genre, c'est un moyen. C'est un décor, c'est un gimmick qui permet de faire avancer des choses. Vous lisez un roman avec un détective situé dans une période pseudo-victorienne, ou qui prétend l'être, avec des machines, des automates, des salons d'opium qui existent comme il en existait à l'époque. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir charmante adolescente chinoise qui vient vous apporter votre pipe d'opium, ça va être un automate qui va venir le faire. Et ainsi de suite. C'est à la fois une esthétique et en même temps, c'est un petit truc qui permet de faire avancer les choses.
On pourrait pousser le vice jusqu'à ce que ce soit un automate sous apparence d'une jeune fille chinoise.
C'est ton fantasme, c'est pas le mien.
Pas de polémique.
Bah si, justement. Je suis relativement d'accord avec Eric dans ce cas-là.
C'est vrai, c'est vrai.
Sans la polémique jusqu'au bout. Le steampunk en tant que tel, c'est juste un petit courant, une petite rivière qui fait partie d'un grand genre qui s'appelle la science-fiction.
C'est ça.
Là, techniquement, vous me parlez d'océan, de petits groupes de machins, de bidules. Moi, tout ce que je vois, c'est la constitution de chapelle. Si ce n'est pas de clan, chacun va clamer à la face de l'autre. Ah ben, moi j'adore le dieu lapin. Ah ben non, moi je suis plutôt dieu canard. C'est tout.
Très bonne allégorie d'ailleurs.
Alors que le symbole,
pour ceux qui la connaissent,
qui sera le même.
Je vous invite à la chercher, l'allégorie du vieux lapin et du vieux canard. Très très bien.
Voilà. C'est des petits groupes qui vont jouer un peu comme toi sur l'esthétique, qui vont pas forcément se précipiter vers des bouquins. Ça a été un des grands drames au début, au milieu et même à la fin, parce que pour moi je considère que le mouvement steampunk est limite en train de se terminer, on est en train de passer à autre chose. Il n'y a pas une œuvre fondatrice. Au même titre que l'Uchronie. Mmh, mais le truc, c'est que vous n'avez pas une œuvre fondatrice en tant que bouquin, mais ça a migré, par contre, en tant qu'esthétique, en tant que gimmick, sur d'autres genres. Tout comme l'Uchronie. Vous avez maintenant des jeux vidéo à tendance steampunk. Vous avez des dessins animés, les Japonais sont en train de développer toute une esthétique steampunk, des œuvres uchronico-steampunk zombiesques même. Dernière fois, j'ai regardé une...
Iron Fortress.
C'est ça, avec une fille à forte poitrine qui va dégommer du zombie et qui mieux. Effectivement, je comprends mieux ton obsession.
C'est dommage que tu sois focalisé sur ça.
Je comprends mieux ton obsession de l'adolescence chinoise qui
s'appelle la pipe. Je préfère en fait la ville locomotive en fait qui va dériver littéralement dans les champs emplis d'espèces de zombies, de zombistines littéralement. Les trucs qui sont même pas morts vivants, ils sont morts fumants. C'est assez incroyable. Je sais même plus si c'est Kandreki of the Iron Fortress, mais je sais que la fin du titre c'est Of the Iron Fortress. Cabanerie of the Iron Fortress, merci beaucoup. Voilà.
Juste que la série, justement, on garde la première moitié avec le train, puis le reste avec le méchant aux cheveux roses qui veut venger de son père, on oublie ça si possible.
Les Japonais ont d'excellentes idées de départ, ils ont de très mauvaises idées de fin. C'est établi.
Ah bah oui, forcément, c'est...
Parce qu'en fait, ils alternent avec Attack on Titan pour laisser...
Non, mais en fait, on part... Alors là, vous êtes en train de découvrir le monde merveilleux de l'entertainment. On parle d'une industrie, hein. C'est pas un type complètement bourré qui est arrivé en déclarant « Les gars, j'ai l'idée du siècle ». C'est toute une série de mecs qui sont arrivés complètement bourrés autour d'une table de réunion pour déclarer « On va foutre une fille à forte poitrine, on va mettre des zombies, on va mettre une esthétique qui est relativement cool, et puis voilà !»
C'est Resident Evil, ça.
Laisse-moi croire qu'ils sont bourrés. Au moins, ça leur donne une excuse.
D'ailleurs, je me demande si...
Donc, vous avez ce genre de...
Moi, je veux revenir sur l'Uchronie victorienne. J'ai bien aimé, même s'il avait l'air de dire qu'il était critiqué sur ce terme-là. Puis, ça va faire le lien avec ce qu'a dit Feldrick. C'est quand même une époque... pas facile. L'époque victorienne est quand même une époque très guindée. Alors, est-ce qu'être dans le monde steampunk, est-ce que vous n'êtes pas des nostalgiques, voire des masochistes? Parce qu'il n'y a que 5% en effet de gens qui profitent d'un système, qui profitent plein d'un système, alors que voilà, 95% de la population souffre au jour le jour. Donc, est-ce qu'il n'y a pas. Qu'est-ce qui, au final, motive. Qu'est-ce qui est le lien de tout cet univers-là?
Ah, pardon Frédéric. Tiens, pour une fois, je vais faire mon... Alors, sans vouloir être méchant, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel style d'époque. Si on faisait du tourisme temporel actuellement, sans vouloir être méchant, vous n'allez pas vous installer dans l'Empire romain en tant qu'esclave. Votre durée de vie sera extrêmement limitée.
Alors, détrompe-toi, c'est pas forcément le cas. Il y a des recherches très récentes qui montrent que l'esclavage sous l'Empire romain avait finalement, c'était des bonnes situations. Même s'il
n'y
a pas de bonne
situation, ça esclave.
Eh ben, vas-y Thibaut, vas-y.
Non mais vous savez, moi je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation.
Non. Vous êtes en train simplement d'appliquer votre prisme de la société actuelle sur une époque dont nous ne connaissons quasiment rien. C'est tout. D'un point de vue santé, j'ai 40 ans, je serais déjà mort.
Le steampunk a un grand avantage quand même. Parce que si on veut savoir pourquoi il marche littéralement, contrairement en parlant, moi j'ai une hypothèse, hein, on ne pourra jamais démontrer comme tu le dis, c'est que nos arrière-grands-parents s'évadaient dans des récits de pirates.
Oui.
Parce que dans les années 50 ou 40, peut-être que tout était cartographié, mais on n'avait pas les satellites et c'était très exotique. Mes parents ou mes grands-parents s'évadaient dans les fleuves noires dans les récits de conquête spatiale. La porte de l'espace est fermée après 72 ans, puisqu'il n'y a plus de budget, plus de conquête. Dans ma jeunesse, on s'évadait dans Tolkien. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus aller dans l'espace, ça ne pouvait plus arriver personne, non pas que l'espace soit épargné, mais il n'y a plus de sous, il n'y a plus de conquête, plus de programme. Ça, tout avait été écrit ou presque, et on s'évadait dans Tolkien, parce que c'était redécouvert tardivement. Le steampunk, moi, il y a un avantage, d'autant qu'à l'époque où j'ai exprimé cette définition, cet avantage du steampunk, j'ai été en 2000 et on m'interrogeait à l'époque sur pourquoi le steampunk est très à la mode, là, juste en fin de millénaire, des choses comme ça. C'est qu'à l'époque, j'étais à l'autre fonction dans une compagnie mondiale, et je disais le steampunk a un avantage, c'est qu'il a les avantages du monde moderne sans les inconvénients. Autrement dit, quand vous démarrez dans The Two Georges de Tocqueville de Dreyfus, dans lequel il décrit un monde dans lequel l'Amérique est restée, c'est une vraie produit, restée sous domination britannique, après la Révolution, et puis il y a bien un développement de type steampunk, de type accéléré des technologies à vapeur. Eh bien, le policier qui, au départ, bon, le premier chapitre est génial, hein, moi j'ai lu dans l'avion entre Singapour et Paris. Le policier qui rentre finalement de New York, qui a un autre nom, sur sa Californie, où il est le patron de la police en Californie, prend un dirigeable et il met 4 jours en s'arrêtant d'ailleurs par l'énorme port de Chicago. Et à un moment donné, il lit une brève dans un journal qui lui parle d'un inventeur en Europe qui aurait fait un plus lourd que l'air, qui irait très vite. Et il a cette réflexion que je vous laisse méditer intéressante, mais pourquoi diable voudrait-on traverser la même plaine en 2 heures quand on peut le faire en sirotant un whisky en regardant les bisons dans la plaine en 4 jours? Autrement dit, il y a l'avantage avec les technologies, on disait tout à l'heure, d'ordinateur à vapeur ou de la communication, une espèce d'internet, de machin comme ça, sans la pression temporelle qui fait que les gens burn-out aujourd'hui. Ne perdez pas de vue que je pense qu'une partie des lecteurs, qui ne sont pas forcément par contre des femmes, au sens où vous n'allez pas les voir en convention, mais il y en a, pour eux, aujourd'hui, c'est un véritable moyen de se dire c'est un monde lent à cause de la vapeur, mais qui présente les avantages de l'information, de la révolution de l'information qui, elle, n'est pas devenue avant. Moi, je ne sais pas si j'ai raison en pensant ça, mais j'ai tendance à penser que c'est une des motivations que je trouve, moi, dans steampunk, en tant que voilà, cadre sous pression ou des choses comme ça dans ma vie, par contre, par ailleurs. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, le 19e siècle a aussi des bons côtés, dont sa lenteur. Hein,
Et une dernière chose que je voulais préciser par rapport à cette fin de 19e, qui effectivement n'était pas enviable sous tous ses aspects, il y a une chose qui est en revanche intéressante, c'est que les plus grandes fortunes avaient les moyens de financer des projets complètement hallucinants. Aujourd'hui, on n'a que quelques fortunes au monde qui ont cet argument en main, quoi. C'est là que les grandes fortunes actuelles arrivent à peu près à un quart des fortunes de l'époque. Voilà. Donc financer un projet à l'époque en sachant ce qu'on pouvait faire avec de l'argent à la fin du 19e. Oui. Donc voilà, c'est une des choses, je dirais, qu'on pourrait envier à cette fin du 19e et début 20e. C'est vraiment la puissance financière de ces capitaines d'industrie qui avaient la capacité d'envoyer une expédition au pôle sud juste parce que ça leur faisait plaisir. Et qui pouvait changer le monde, complètement. En parlant d'Eiffel tout à l'heure, Gustave Eiffel a été décapité quelque part sur le plan industriel à cause du scandale de Panama. Ce bonhomme avait quand même été en place de signer la construction sur fonds propres de la première ligne de métro, qui aurait vu le jour, enfin, les travaux auraient commencé autour de 1890, 91, 92. Et j'ose imaginer la tête qu'aurait eu un métro construit par Gustave Eiffel. Il avait dans les mêmes cartons le projet de construire le premier tunnel sous la Manche. Quand on regarde les plans de Gustave Eiffel et qu'on regarde ce qui a été fait aujourd'hui, on trouve des similitudes frappantes. Ça aurait vu jour début 20e, etc., etc. Donc effectivement, ils avaient en main des capacités financières assez intéressantes.
Tout un livre à écrire là-dessus.
Mais... De toute façon, quand on y regarde bien au niveau du steampunk, je crois que la meilleure définition, c'est tout simplement dire si le futur était arrivé plus tôt.
C'est ça.
C'est tout.
Ouais, c'est ça.
C'est, ils avaient les moyens, ils avaient l'argent. Alors maintenant, quant à savoir s'ils en avaient l'intérêt, un truc tout bête, justement, parlons de voitures. Au tout début, on a développé les voitures à moteur à explosion et des voitures électriques. On s'est dirigé vers les voitures à moteur à explosion parce que la technologie nous a paru plus simple. Et parce que, à mon avis, il y en a qui ont déjà dû réfléchir en disant mais quel est l'intérêt finalement de développer. Donc on a des branches finalement qu'on est en train de redécouvrir aujourd'hui qui ont existé à un moment et où automatiquement quelqu'un dit ah ben non, c'est pas utile, à côté c'est plus simple, le pétrole, on n'a pas de problème pour le récupérer, donc développons ça. C'est aussi simple. Et pour revenir donc sur tout à l'heure, sur, par rapport à la mort du steampunk, mais en fait techniquement c'est pas une mort, c'est à la fois une mutation et une évolution. Vous avez maintenant du dieselpunk. Dieselpunk, c'est quoi? C'est les années 20, 30, 40. Vous regardez par exemple un jeu vidéo comme Wolfenstein The New Order et bientôt sa suite The New Colossus. Ça joue sur quoi? Ça joue sur le bon vieux poncif propre à l'Uchronie, si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, mais en le situant dans un monde rétro-futuriste du plus bel effet, avec des cités gigantesques, toute la déshumanisation justement nazie, des robots de combat géants, forcément toujours des robots de combat géants, quel que soit l'univers.
Toujours.
Et tout un tas de trucs. Et une réflexion justement aussi par rapport aux horreurs et aux atrocités nazies, et ainsi de suite. Et tout ça, comme je le dis toujours, c'est juste des courants qu'on retrouve au niveau de la SF. Donc, quel que soit votre intérêt dans le truc, finalement, vous êtes à raison. On est entré dans un océan dont finalement on ne connaîtra jamais la fin.
C'est ça, c'est tout à fait ça. En fait, c'est cool, on est d'accord.
Ah oui, non, mais techniquement, tout est cyberpunk.
Ça, c'est quand même le fondateur.
Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir ou
des
sujets
Oui, bonjour, Benoît Bernard. Je suis réalisateur dans une association d'autoproduction en Bretagne, donc un peu avec la Brest Steampunk Society, avec lesquels on prépare un projet de court-métrage steampunk. J'avais deux questions. Une question d'abord très utilitaire, est-ce qu'il existe un bon court-métrage steampunk à regarder pour s'inspirer, notamment pour le scénario? Et aussi, deuxièmement, peut-être une réflexion en vous écoutant peut-être plus large, est-ce que finalement le salut du steampunk, puisqu'il est mort en vous écoutant, ne serait pas finalement lui faire poser des questions de société actuelle, comme je vois votre bras avec poser des questions sur la bioéthique, le transhumanisme, etc. Est-ce que ce ne serait pas finalement une porte ouverte sur le développement et l'actualisation du steampunk? Merci.
Alors pour le court-métrage, en fait, je suis en train de réfléchir. Si t'en as déjà un en tête, vas-y. J'en ai peut-être un autre. De toute manière, comme je disais tout à l'heure, faire réfléchir les gens sur aussi bien l'histoire et les nombreux moignons, on va dire. Oui. Faire réfléchir les gens sur l'histoire, les nombreux moignons, en fait, justement, de possibilités qui, au final, n'ont pas pu voir le jour. Commencer justement peut-être à se dire, tiens, si on explorait cette piste-là, ça pourrait être intéressant. Tiens, on a essayé, pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté? La question du pourquoi, en fait, est toujours intéressante, mais a tendance à être supplantée par le comment. Et je trouve qu'on ne s'interroge pas suffisamment, en fait, sur le pourquoi. De ce point de vue-là, oui, se poser les questions pourquoi, en fait, justement. Alors pourquoi, oui, est-ce que j'ai une grosse prothèse sur mon bras? Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'en avoir une? Pourquoi est-ce que ça peut avoir justement une importance, quelque chose à étudier, en fait, du point de vue du point de vue éthique, on va dire ça comme ça, littéralement. Ça mérite en fait toujours d'être approfondi, ce genre de choses, même si au final les gens vont finir par nous regarder comme des bêtes curieuses, parce que forcément quand on commence à parler, oui alors toi ton bras il fonctionne à quoi? Alors bon bah moi c'est des réseaux de cuivre en fait implantés dans la chair avec du piézoélectrique pour permettre en fait de stimuler simuler les stimulations musculaires et en fait donner en fait l'amplitude nécessaire au fonctionnement du truc. Je me dis, ah d'accord, piézo quoi? Ok d'accord, bon là tu vas faire tes recherches mon petit tunnel. Voilà, recherche, c'est tout. C'est comme dans tout domaine en fait culturel dans lequel on a envie de s'intéresser, j'ai envie de dire, et auquel on va finir par retrouver forcément des sources aussi bien imaginaires qu'historiques. C'est jamais du temps perdu. On se cultive et puis on réfléchit surtout. C'est quand même important de faire quand même travailler ça. On l'a pas pour rien. Voilà.
malheureusement, enfin, je pense qu'il est bon de le rappeler encore et toujours à notre époque. Quant aux courts-métrages, j'en ai vu tellement. Et pourtant, il n'y en a pas un qui me revient par rapport à un autre, en fait, justement, du point de vue qualitatif.
Si quelqu'un a des idées aussi.
Ouais. Si je...
Il n'y a pas de réponse, je suis d'accord avec toi.
Il n'y a pas de réponse. Il faudrait savoir ce que vous voulez explorer, vous, dans votre réalisation.
Oui, c'est ça.
Parce que vous avez des courts-métrages issus de jeux vidéo, vous avez des courts-métrages de dessins animés, vous avez des courts-métrages qui sont des films ratés. Il y a même des pilotes de séries, voilà. Moi, je ne sais pas du tout ce que vous cherchez, comme tu disais tout à l'heure. C'est un supermarché, le steampunk.
C'est complètement ça.
Votre cahier des charges n'est pas clair, on ne peut pas répondre à la question.
Par contre, si vous avez plus ample précision, on peut peut-être vous en fournir une.
Voilà. Sinon, la réponse est non.
Un petit peu court-métrage, 15 minutes, fiction. Bon, je suis tombé sur des essais un peu ratés, un peu foireux du côté de la Lorraine. Pirate par exemple, Chronicle, enfin, si ça vous parle, malheureusement vous l'avez vu. Mais voilà,
c'est un essai.
Voilà, en visant, en youtubisant, même si
c'est un essai.
J'ai du mal à trouver ce qui s'est fait avant pour éviter de faire les erreurs.
Ça, c'est des contingences, je dirais plutôt matérielles et humaines, on va dire ça comme ça.
Vous avez deux cas de figure dans la vie si vous voulez écrire une œuvre, une œuvre fiction ou autre. D'ailleurs, moi, c'est pour ça que je n'écris que des essais et pas des œuvres de fiction. Soit vous avez la prétention d'avoir tout lu et de faire quelque chose de différent des autres, soit vous faites comme mon ami Bernard Werber, vous ignorez absolument que Simac écrit Demain les chiens le jour où vous écrivez Les fourmis. Et il est de bonne foi, et c'est quelqu'un de très bien. Ce que je veux dire, et donc, d'aucun qui va lui dire ah, mais merde, j'ai déjà lu ça ou pas, c'est pas vrai, et le grand public qui l'avait pas lu va découvrir une autre facette. Voilà. Donc, si vous commencez par vouloir vous dire je veux faire un truc différent de tout ce qu'il avait fait avant, vous ne créerez jamais rien. Parce qu'il faut avoir une certaine prétention. Je vous laisse l'écrivain là-bas, je le laisse compléter, parce que lui, au moins, il fait une fiction. Il faut se documenter, mais il ne faut pas avoir la prétention de. Il n'y arrivera pas. Donc, voilà.
Oui, je rejoins complètement la réflexion présente. Effectivement, il y a deux approches. Soit on fait le tour de la question et on s'aperçoit qu'on n'a plus qu'à faire autre chose. Soit on se lance dans le grand bain avec ses propres outils, sa propre vision des choses. Et c'est vraiment c'est la seule chose qu'on vous demandera, en fait, en définitive.
Surtout quelle saveur aussi, parce que ça peut être justement soit un côté baroque, soit un côté sombre, soit un côté fantastique, soit un côté vraiment un peu, j'irais, aventureux, format justement pirate désert à la Gaslight Fantasy. Tout dépend vraiment, en fait. S'il y a la BSPS qui fonctionne dedans, honnêtement, s'il y a la BSPS qui va faire partie du projet, on va dire ça comme ça, peut-être, je ne sais pas. À mon avis, quelque chose, en fait, limite les Monty Python serait parfait, car les Monty Python ont eu en fait une esthétique dans Bandy, en fait dans Time Addicts, qui est absolument géniale.
Quand on a parlé tout à l'heure de steampunk qui est mort, et là moi je vous l'adresse comme un vaccin, je ne suis pas un fan de steampunk au sens où vous ne verrez pas dans les conventions, c'est que je pense que quand je dis que le steampunk tourne rond depuis une dizaine d'années, je pense à ce site du Polonais Fou, moi je l'appelle Polonais Fou, qui recense le steampunk. J'entendais le monsieur derrière et ne voyait pas comme un truc personnel dire que Jules Verne et machin faisaient steampunk. D'aucuns vont m'écrire que David Lynch fait du steampunk dans Dune. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de vouloir rendre tout steampunk. Bientôt, on va me dire que la Bible n'est pas la Bible du steampunk, la Bible tout court est steampunk. C'est le problème des fans, que ce soit les fans de science-fiction de polar, c'est qu'ils veulent voir à tout prix leur genre partout et convaincre le reste du monde que tout tourne autour de ça. Quand on en est là, vous êtes mort. Parce que vous n'intéressez plus personne, notamment les gens qui ne sont pas dans le domaine, parce que vous, justement, vous existerez dans un univers où d'autres existent. Et quand David Lynch met ce qu'il met comme uniforme aux Atrides au début de Dune, il n'a aucune référence steampunk, il n'en a rien à foutre, il est dans le sphère austro-hongrois. Alors vous pouvez toujours me dire que l'Empire austro-hongrois est steampunk, mais je suis désolé, il existait avant, j'ai envie de dire le steampunk est peut-être un peu austro-hongrois, mais l'inverse n'est pas vrai et historiquement complètement stupide.
Il est intéressant.
Et donc faites gaffe à ce réflexe de fans, hein, parce que c'est pas que steampunk, vous avez des fans dans tout qui veulent absolument classer dans leur étiquette tout et n'importe quoi, et là, c'est là que ça égasse. Parce que vous avez un public qui lit le chronique, vous ne verrez jamais en convention, parce qu'il ne lit pas de science-fiction. C'est un public d'historien, de philosophe, mais qui achète aussi vos livres. Et il y a des gens qui lisent du steampunk là-dedans, j'en connais. Vous n'avez rien plus jamais en parce qu'ils sont intéressés par votre historique, on peut être assez. Par contre, les gens qui vont leur bouffer leur après-midi à leur expliquer que je ne sais qui est le steampunk qui vivait il y a 3 ans, ils les fuient. Ils fuient comme moi je fuis les ufologues. Hein.
Il faut.
Ou alors vous les voyez une fois tous les 3 ans juste pour dire à votre femme, tu vois, je suis normal. Hein, il y a pire. Bon, ben voilà, mais faites gaffe à ça, sous ses dents.
Après, je dirais aussi. Il est intéressant de noter, pour beaucoup, en fait, je vais prendre un exemple, en fait, justement, ludico-littéraire.
Château Falkenstein, pour moi, le premier jeu de rôle se définissant comme étant steampunk. Et encore, à l'époque, ça restait quelque chose vraiment à prendre avec des pincettes. Et excellent, d'ailleurs. Enfin, j'adore. Il est intéressant de noter que Château Falkenstein a été inspiré majoritairement par Le Prisonnier de Zenda. Le Prisonnier de Zenda qui, au détour d'être un bouquin fantastique, d'être un film absolument merveilleux que je vous conseille de voir, n'est absolument pas steampunk. Mais voilà. Et de ce point de vue-là, même dans... Alors, on rebondit justement sur l'Empire austro-hongrois. Dans le livre de Château Falkenstein, c'est pas Tom Kirby, c'est qui d'ailleurs ? Si, c'était Tom Kirby. Tom Kirby dit lui-même, en définissant Europa, que l'Empire austro-hongrois est le vieil homme mourant d'Europa. À partir de là, alors on est d'accord, on n'est pas d'accord. Oui, ça va partir dans des discussions enflammées, genre c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison, etc., etc. Mais il est bon aussi de tirer le, comme je disais tout à l'heure, le bon grain de livret de ce genre de discussion. Du genre. Donc alors pourquoi est-ce que l'Empire austro-hongrois s'est considéré par lui comme étant ça ? D'accord, il a tels arguments, ok, on va les vérifier. Pourquoi lui, c'est pas d'accord ? Il a tels arguments, ok, on va les vérifier. Et au final, tiens, est-ce qu'on pourrait pas essayer de rebondir sur quelque chose de plus intéressant ? Je me rappelle justement de l'Uchronie du forum steampunk.fr où au final il y avait l'émergence d'une espèce d'état bâtard entre l'empire, le nouvel empire germanique du Kaiser et surtout de Bismarck et en fait l'empire mourant austro-hongrois qui a été en fait l'Edelstadt, qui était cette espèce de Bavière fantasmée Falkensteinienne, Neuschwansteinienne, on va dire ça comme ça, très wagnerienne aussi, au demeurant, et qui faisait vraiment, en fait, selon moi, le juste milieu entre, en fait, non, c'est bon, non, c'est pas bon. Voilà, c'est vraiment, en fait, au final, de discussions, d'idées, de recherches qu'on finit par arriver à ce genre de choses-là. J'ai souvenir aussi d'un court-métrage qui avait été réalisé en 3D, justement, avec... je crois que c'est encore en fait en état de projet, c'est un court-métrage allemand avec une magnifique réalisation en fait de forteresses volantes, un équipage et ils sont tous en brandebourg, tombés par terre, et pourtant bon, c'est la fin, on va dire ça comme ça. Il y a quand même, quand je revois les fous volants, ces merveilleux fous volants dans leur incroyable machine volante, quand on voit en fait pour le Vaterland, le gros général, je ne sais peut-être plus par qui il est incarné, qui est là avec toute son escouade en fait d'ingénieurs, ils ont tous des chapeaux. On est là genre, ah ouais, ça détonne vachement quand même sur l'époque. On est quand même en 1910. Les mecs, j'ai l'impression qu'ils sont sortis de 1876, quoi. C'est incroyable. Voilà, aussi une autre source d'inspiration. Les merveilleux fous volants dans leur magnifique machine volante. Pourtant, ça pourrait être steampunk. Mais non. C'est autre chose. C'est du flypunk, on va dire ça comme ça, je ne sais pas, mais voilà, il y a une idée,
Ça, c'est la capacité des gens à vouloir coller aussi à n'importe quel prix une étiquette,
oui, c'est
et
ça,
rejoins en fait complètement Eric, c'est le côté fanboy.
C'est ça.
C'est tout, t'arrives, tu vois tel truc.
Les fameux FBDM.
Voilà, et à l'époque, ils s'en foutaient. Tu regardes Chitty Bang Bang, tu regardes... C'était un Disney qui n'avait pas très très bien marché.
La planète au trésor.
Oui, la planète au trésor, pour le coup. Ça, c'est du rétro-futur.
Atlantide, tu vas dire. Non,
Atlantide, il a bien marché.
Non, mais la planète au trésor.
Oui,
non,
la planète n'a pas très bien marché.
Et pourtant, justement.
Non, la planète au trésor n'a pas très bien marché. Le géant de fer a acquis un statut culte largement après, parce qu'ils en ont basé en fait pour le réaliser. Et il est sorti. Quasiment
dans la même période,
C'était en train de couler. Ils ont sorti une édition collector où il y avait une très bonne interview du réalisateur qui a avoué qu'en fait, quand ils ont commencé à bosser sur le projet, c'était le moment où chaque grande compagnie rêvait d'avoir un département animation. Donc ils avaient tous flambé des dollars à 10 millions en disant « Allez, on souhaite notre branche animation !» Et puis 5 ans après, généralement, ils fermaient tous leur boîte parce que ça marchait pas. C'est tout. Tout le monde pouvait pas, tout le monde n'avait pas entre guillemets une gestion à la Disney et n'était pas installé depuis X années pour survivre à un désastre au cinéma. Ça, le combien de dessins animés on redécouvre maintenant dans des trucs complètement improbables comme Le Prince d'Égypte ou ainsi de suite. C'est tout. Mais
dessin animé qui me fait pleurer, enfin, c'est juste un peu... Oh, ça, c'est biblique, mais ça me fait pleurer.
La bande-annonce me suffit un peu.
Ouais, voilà. Ah bon, ça fait rire des gens.
Pour revenir sur l'aspect extrêmement dystopique, puisque généralement les créations de steampunk sont très 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 souvent dystopiques, et ça rejoint un petit peu justement le problème des limitations sociales et sociétales et technologiques. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans les dernières décennies, des œuvres qui sont sorties qui ont plutôt un aspect uchronique ou utopique pardon, utopique.
Utopique.
Oui, il y en a une ici. Larry Spem en fait part du principe que la commune l'a emporté en 1870 et Paris est redevenu une cité-état. Et là, on tombe justement sur deux jeunes filles qui vont tenter de déjouer un complot qui vise à faire chuter Paris. Alors j'ai pas encore lu le deuxième tome qui doit développer un peu plus l'univers, mais on tombe déjà dans le premier tome sur un Jules Verne justement qui s'est installé à Paris et qui est devenu une espèce de, à la fois de muse et de génie inventeur un peu à la Léonard de Vinci qui joue un bon rôle justement par rapport à ça. D'une certaine manière, la trilogie Léviathan dont j'ai les trois tomes, qui a été, une petite pub en passant, qui a été primé par le prix ActuSF de l'Uchronie. Il y a une forme d'utopie quand même, qu'on y regarde bien. Il y a un moment là. En fait, c'est un monde. L'Uchronie est assez subtile. C'est un monde en fait où Darwin fait sa fameuse théorie de l'évolution, mais continue à faire des recherches. Et en fait, il va découvrir l'ADN et développer une science qui va permettre de modifier l'ADN. Donc à partir de là, vous allez avoir deux courants de pensée qui vont émerger. Les darwinistes, où on va créer complètement des créatures pour certaines tâches. On va créer l'espèce d'équivalent de super éléphant pour pouvoir transporter des gros trucs. On va créer des baleines volantes. Pourquoi donc ? Parce que nous pouvons, mon bon monsieur. Puis à l'intérieur de leur restaurant, voilà, on va balancer des petites chauves-souris qui peuvent aller bombarder, parce qu'on va créer des organismes complètement différents qui peuvent aller attaquer des êtres humains en les bombardant avec des petites fléchettes leur organisme sécrète, pour ainsi dire.
Des espèces de, voilà. de proto...
Et à côté de ça, vous avez ce qu'on va appeler les clankers, c'est-à-dire le tout mécanique. Donc là, forcément, vous tombez sur l'Empire allemand, sur l'Empire austro-hongrois, et ainsi de suite. Et la série se passe juste avant la Grande Guerre de 14-18. Donc on a ces deux mondes qui s'opposent, et il y a un très très beau passage, ça doit être à la fin du deuxième, non, au début du troisième tome, dans un Japon qui est en train de se moderniser, mais où où la société japonaise en fait a récupéré les deux technologies. Les darwinistes, voilà, il est fait cohabiter. Et ça, c'est très très beau. Puis à la fin, naturellement, comme tout savant fou qui se respecte, on compte sur Tesla et son rayon de la mort, et ainsi de suite.
Est-ce qu'il a un robot géant ?
Non, il a une tour avec son fameux rayon de la mort qu'il a tenté de vendre au gouvernement américain en déclarant « Vous allez voir, avec moi, il n'y a rien qui passera. »
C'est d'ailleurs amusant de noter que, pour une fois, dans une œuvre steampunk, Tesla soit considéré comme étant un méchant.
Oui.
Voilà.
Mais là, tu viens de leur faire un méga spoiler. C'est pas grave.
S'en fout. Tu viens de leur faire un méga spoiler. Tesla, rayon de la mort.
Bah quoi ? C'est comme les canons atomiques.
C'est vrai, n'est-ce
pas ?
Quand
t'appuies pas. C'est pour la paix.
Toujours, toujours. Voilà. Sinon, je pensais aussi. Alors, dans une moindre mesure, peut-être un côté un peu plus fantastique au protecteur de l'ombrelle, au final, en fait. Voilà.
Oui.
Voilà, tout à fait. C'est censé être très dark, mais au final, c'est des romans pour ados et ça reste en fait une société où vampires, loups-garous, créatures féeriques vont se côtoyer en bonne intelligence, sous la concorde de la couronne. Et au final, bon bah, forcément, aucun monde n'est parfait et à partir d'un certain moment, vont intervenir des troubles.
Voilà, sans être grossier, grosso merdo, faut toujours quand même mettre un monde. Vous savez pas forcément où au début, vous dites « Oh mon Dieu, c'est génial, c'est absolument fantastique !» Puis quand vous grattez un peu la petite couche de vernis, vous apercevez que c'est dégueulasse. Qui a envie de se trimballer finalement dans la cité de Rapture, dans Bioshock, avant que ça s'effondre ?
Je vais vous faire croire dans le dos. Quand je dis en conférence qu'un univers où les nazis ont gagné la guerre est une croyée optimiste, en général, il y a un grand plan quand je dis ça. Mais c'est une uchronie optimiste. Mais... C'est un univers où les nazis ont gagné la guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers dans lequel nous vivons, nous, est meilleur que ce que nous décrivons. Donc, du point de vue de l'écrivain qui s'adresse à des lecteurs, il est en train de leur dire, vous vivez dans un monde qui aurait pu être pire. C'est donc optimiste, vous êtes dans un monde bien. C'est-à-dire, tout dépend comment vous lisez la dystopie. Alors qu'avant avant Hiroshima, entre guillemets, les uchronies étaient plutôt des uchronies nostalgiques, écrites par un sudiste qui aurait aimé que la guerre se soit gagnée, écrites par un napoléonien qui aurait aimé que Napoléon gagne. Autrement dit, ces gens considéraient qu'ils vivaient dans un monde qui était moins bien que ce que leur rêve les poussait à écrire.
Ce qu'ils auraient pu avoir.
C'est Hiroshima qui change tout. C'est-à-dire, depuis Hiroshima, les écrivains ont tout d'un coup écrit des mondes qui nous semblent pires, ce dont on dit le nôtre est meilleur. Donc attention à ce que vous appelez dystopique, parce que c'est pas parce qu'on a écrit le monde noir qu'on est en train de dire finalement le nôtre n'aurait pas pu être pire. Et moi je suis positif quand je dis ça. Je suis content d'être dans mon monde, pas dans celui dans lequel les nazis ont gagné.
On peut pas dire ça comme ça sans l'expliquer, parce que ça fait un
froid. Non, mais au contraire, c'est bon de préciser ce genre de choses. C'est très bon de préciser ce genre de choses.
Du coup, je peux avoir une deuxième partie à la question, c'est...
La réponse est non.
Tant pis.
Question suivante.
Tout à l'heure, vous avez évoqué l'éventualité de remettre en lumière dans les créations les problématiques qu'on a aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des titres en tête, quel que soit le format, qui évoquent justement des problèmes d'aujourd'hui? Au sens large.
Votre question n'est pas assez précise.
Tous, je dirais. Tous.
Tous, c'est pas un point.
Le grand auteur anglais qui écrit un long steampunk dans deux ou trois trucs, en fait, on voit un Londres aussi. Parce que si la révolution industrielle a été allée plus loin, avec les moyens d'époque, on serait déjà tous morts de pollution.
Yann R. MacLeod.
C'est-à-dire qu'on est bien dans les problématiques d'aujourd'hui, quand même, aussi dans le steampunk. N'oubliez pas que si vous prenez la technologie du 19e siècle, il a fallu un siècle pour inventer le recyclage. Hein, c'est une technologie très compliquée, le recyclage. Prenez la technologie du 19e, vous dites juste, on la pousse, on continue de la pousser comme ça, on est tous morts. Hein. C'est ce que Philippe Farmer écrivait déjà dans les années 74.
Mais dans, comme ils sont petits, on les entasse.
Bertrand, tu peux m'aider, le livre de Farmer dans les années 74, où il décrivait déjà un monde un peu steampunk où, pour nous alerter sur le danger de la pollution, donc qui est très précurseur, parce que ça date de 74. Donc la problématique du steampunk, c'est la problématique de
chacun son tour.
Non, c'est le truc wagnérien, la tempête d'une nuit d'été.
Tempête d'une nuit d'été,
au 19e, il a imaginé que les progrès un peu comme steampunk se poussaient, et il nous fait crever dans les années 1970 de la pollution.
Paul Anderson,
on
l'a faussement, il est sorti chez Pocket directement, on l'a faussement intégré dans une soi-disant.
Donne le titre dans ce cas-là. Donne le titre.
C'est pas Philippe Joseph Farmer, c'est Paul Anderson, c'est Tempête d'une nuit d'été. Et on l'a. Alors, c'est sorti directement chez Pocket, on l'avait faussement mis dans une espèce de fourre-tout qu'on avait baptisé les univers livres.
Parce que le mot n'existait pas. Ouais.
Voilà, parce qu'à chaque fois, il développait une théorie. Bah, là, par exemple, sa théorie chronique, c'était et si Shakespeare avait été un historien. Donc, tout ce qui se passait dans les pièces de Shakespeare existait. Donc par exemple, il y avait une victoire, toutes les pièces de Shakespeare décrivaient la réalité.
Et il décrit une révolution industrielle
qui a lieu beaucoup plus tôt sous Cromwell pendant la guerre civile anglaise, tandis que le roi, lui, devient une espèce d'incarnation du bon vieux temps, des forces de la nature, et ainsi de suite. Alors je suis sûr que Cromwell, se poserait des grandes questions quant à... On peut s'imaginer en futur dictateur du XXe siècle avec une technologie qu'ils sont en train de développer, tout comme Jacques Ier aurait été certainement ravi d'apprendre qu'il était qu'il représentait lui tout seul les forces du bien et un monde finalement très très cool.
L'image de la nation bretonne.
Sortez monsieur, c'est un club sérieux ici. D'autres questions?
Sinon, en termes d'utopie, il y a le mien.
Voilà.
Parce que toute l'histoire du projet de la 25e heure, du Chrysanthème Noir et de Paris Capitale est de penser à un univers dans lequel les scientifiques français de la fin du 19e prouvent l'existence de la vie après la mort et développent des technologies en lien avec tout ça dans le but de l'exploiter tout simplement. Avec des visées à la fois capitalistes, Donc en gardant, en conservant jalousement leur invention de tout espionnage industriel, et en même temps avec justement une espèce de capitaine d'industrie qui a l'idée, l'utopie, de permettre à l'humanité de trouver un but quelque part, en permettant aux grands savants, aux grands médecins, chirurgiens, artistes, hommes politiques, penseurs, de revenir à la vie, de poursuivre son œuvre pour le bien commun. Et donc là, si on n'est pas dans la définition d'une utopie, on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est le but visé. Ouais.
Est-ce que d'autres personnes ont des questions pour les intervenants?
Des bisous, des câlins?
Alors ça, c'est Bertrand qui vous les fera. Voilà. C'est proposé. Alors, justement, à ce propos, pour les personnes que ça intéresse, à la fin de notre table ronde, donc maintenant, Feldrick va présenter son livre en avant-première, donc si vous voulez voilà, le découvrir, l'acheter, voilà, vous le faire dédicacer, voilà, il est là pour ça. Donc, j'espère que cette table ronde vous a plu et voilà, vous allez continuer d'être curieux et de découvrir de nouvelles choses. Puisqu'en fait, nous, en fait, le dernier bar, le but de cette programmation culturelle, c'est de continuer en fait le projet qu'on avait à la base, qui est de ne pas être seulement un restaurant, un bar et un lieu qui propose des jeux de société, mais c'est aussi un lieu qui veut diffuser les cultures d'imaginaire au sens large, faire réagir les gens, les faire découvrir de nouvelles choses, voilà, vraiment qui développent leur curiosité. Et donc j'espère que cette table-là vous aura servi de prémisse à cette programmation. Donc je vous présente le programme d'ailleurs du mois de septembre. Vous pouvez le trouver au fond de la salle. Alors en parallèle de cette table ronde, il y a l'exposition de Nicolas Meunier, comme on en a parlé tout à l'heure, qui est à plusieurs, sur les différents niveaux du bar, il me semble. Voilà, vous pouvez la contempler aux différents étages. Il y aura aussi une présentation d'un jeu en fait réalisé par Bobby en fait, notre barman à l'étage. Une soirée aussi Western Steampunk à l'occasion des 5 ans du dernier bar, déjà 5 ans, le 15 septembre. Et voilà, beaucoup d'autres événements, une rencontre dédicace avec un auteur qui fait des steampunk, si on peut dire steampunk. Le livre s'appelle Le Baron Noir, c'est fin septembre, donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, il y a beaucoup d'activités à découvrir. Voilà. Merci beaucoup.